Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue pour votre visite radiophonique avec Vincent Lhermé, géographe au Pays d'Art et d'Histoire, Mandelotte en Gévaudan. Salut Vincent.
Salut.
On a pour une première avec nous Bénédicte Bougnol, guide conférencière au Pays d'Art et d'Histoire. Bonjour Béné.
Bonjour.
Alors Béné, on va aller où aujourd'hui ?
Alors on va pas très loin, mais j'espère que tu as pris ton maillot de bain.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mandelotte en Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
Effectivement, on n'est pas allé très loin. On est à Mende, Vincent.
Et oui, nous sommes à Mende et plus précisément quartier de la Vabre, juste au-dessus du Foirail et au pied du Causse.
Encore à Mende, alors on a fait beaucoup de visites quand même radiophoniques sur Mende.
Oui, mais nous sommes là aujourd'hui pour parler de l'eau à Mende, et c'est pourquoi nous débutons la visite ici.
En effet, l'eau joue un rôle majeur dans l'implantation de Mende. On est dans la vallée du Lot, mais lors du développement de la ville, on choisit de lui tourner le dos, et on préfère s'installer ici à l'abri du Mont Mima.
Mais on est à l'ombre ici.
Oui, c'est le versant nord de la montagne, mais les femmes et les hommes qui ont choisi de s'installer ici ne l'ont pas fait par hasard. C'est là où jaillissent les sources de la Vabre en provenance du Causse. Et ces sources ont longtemps fait la réputation de la ville par leur abondance et leur qualité. Alors très rapidement, ces sources vont être canalisées et vont alimenter un réseau d'eau souterrain de la ville. Et alors ce réseau est visible en surface avec les nombreuses fontaines et lavoirs.
D'ailleurs, l'ingénieux système de distribution de l'eau à Mende est décrit ainsi par le révérend père Louvre-l'Œil au XVIIIe siècle. Je le cite. La ville compte trois fontaines publiques dont les eaux viennent originairement d'une concavité qui est au-dessus de la montagne de Mima. Elle se remplit des pluies et par des conduits souterrains naturels qui penchent vers le vallon de la Vabre. Elle se vide partie dans le trou du rocher d'où part le torrent du Merdanson, partie dans le grand réservoir d'où les eaux se distribuent en divers quartiers de Mende.
Alors il me semble avoir entendu une légende sur l'eau à Mende, qu'en est-il vraiment ?
Et oui, une légende locale affirme que Mende périra par les eaux. En effet, il se dit que la ville est dominée par un immense lac souterrain situé sous le Causse qui conduirait au ravage de la cité en cas de vidange brusque suite à de fortes pluies. Bon, je vous rassure, cette légende n'a aucun fondement scientifique, il n'y a pas de grand lac souterrain sous le Causse de Mende. Toutefois, comme pour tous les Causses, il existe bien un réseau karstique avec des circulations d'eau souterraine qui débouchent sur les versants du Causse et qui expliquent d'ailleurs la présence de nombreuses sources et résurgences au-dessus de la ville. Les sources de la Vabre, là où nous sommes actuellement, le Valas des Pigeons et surtout le méconnu torrent du Merdanson.
Un rapport justement avec la rue du Torrent ?
Oui, en effet. Nous ne sommes pas loin d'ailleurs de cette rue du Torrent dont le nom est directement lié au fait qu'elle s'inscrit en lieu et place de l'ancien lit du Merdanson. Donc le Merdanson, ce torrent qui descend des flancs du Causse de Mende et qui a été canalisé en souterrain à la fin des années 70, début des années 80. Il coulait à ciel ouvert auparavant. Alors petite parenthèse linguistique, Merdanson c'est un toponyme assez répandu dans le Midi. On retrouve notamment le Merdanson qui a été transformé en Verdanson à Montpellier, qui est un affluent du Lèze. On retrouve aussi des variantes comme le Merdaric, qui est un ruisseau qui coule à Saint-Étienne du Val-d'Aunesse, par exemple. Frédéric Mistral, dans son Trésor du Félibrige, voit dans ses noms de rivières la représentation d'un terme générique qui voudrait dire le nom porté par les ruisseaux qui servent d'égout. Et c'était le cas à Mende où le Merdanson, donc qui coulait autrefois à ciel ouvert, comme je l'ai dit, recueillait diverses ordures et carcasses d'animaux issus notamment du faubourg de Saint-Gervais voisin, là où coulait ce Merdanson. De temps en temps, lors des plus forts épisodes pluvieux, l'eau dévale du Causse et vient parfois jusqu'à couper le boulevard Brie-Texte, la route qui part sur Langogne, en charriant pierre et gravats. On retrouve d'ailleurs encore des éléments architecturaux sur certaines maisons situées le long de cette rue du Torrent, qui témoignent du passage possible de l'eau ici. Si l'on observe les façades de certains bâtiments, je pense notamment à l'école Saint-Privat, on peut voir des avancées maçonnées qui s'avancent de la façade sur la rue, qui étaient en fait des brises-eaux destinées à dévier les eaux lorsque le maire dans son coulait et ainsi protéger les façades du ravinement. Donc le maire d'Anson s'est régulièrement manifesté au cours des siècles et a notamment défrayé la chronique mandoise à de nombreuses reprises au 19e et début du 20e siècle, en octobre 1933 notamment. Plus près de nous, il s'est rappelé à notre souvenir lors des inondations de l'automne 94 ou 2003 où on l'a revu couler en surface dans la descente de la rue du Torrent.
Que d'eau, ça fait beaucoup d'eau tout ça, elle semble abondante Amande.
Oui, c'est la réputation de Mende, l'abondance de ses sources, mais ce n'est pas toujours le cas, et d'ailleurs cette année. Et jusqu'à la fin des années 40, la ville n'était alimentée que par ces fameuses sources de la Vabre, et elle fut soumise à plusieurs reprises à des grandes sécheresses, comme en mars 1898 ou en août 1923 par exemple. Et face à ce manque d'eau, les fontaines de la ville étaient d'ailleurs arrêtées pendant la nuit pour laisser se reconstituer les stocks dans les réservoirs qui dominent la ville. Face à ces sécheresses récurrentes et suite au développement de la ville après-guerre, Mende a acquis le lac de Charpal, où nous avons fait une visite radiophonique récemment, en 1946 pour en faire sa réserve d'eau potable. Et donc aujourd'hui, le lac de Charpal assure plus de 90% de l'alimentation en eau potable de la ville. Donc je vous rappelle quelques données techniques sur ce lac de Charpal. On a un barrage de 16 mètres de haut qui permet de stocker environ 8,2 millions de mètres cubes d'eau sur un plan d'eau de plus de 200 hectares. Donc aujourd'hui, les sources de la Vabre sont encore utilisées, mais de manière très très marginale.
Donc du coup, cette abondance, ça explique l'abondance de fontaines. On va aller en voir quelques-unes, Béné ?
Oh oui, nous allons rentrer dans le centre-ville.
Voilà, après la Vabre, on vient d'arriver rue du Soubéran. Pourquoi vous avez choisi de nous arrêter là ?
Nous venons de rentrer dans le centre historique par l'ancienne porte du Soubéran. Et nous sommes en haut de la vieille ville. Nous sommes devant la fontaine du Griffon. Tu voulais voir des fontaines ? La voilà. Alors, il faut imaginer sous nos pieds le réseau de canaux souterrains dont on t'a parlé tout à l'heure, qui était aménagé pour assurer la distribution de l'eau dans les différents quartiers de la ville, de la source de la Vabre jusqu'au Lot. Et ici, les habitants s'approvisionnaient en eau grâce aux fontaines. Alors, dans les descriptions de Mende depuis le Moyen-Âge, on parle d'un grand nombre de fontaines publiques. Aujourd'hui, on en compte plus de 30 sur l'ensemble de la ville.
Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette fontaine du Griffon ?
Alors, la fontaine du Griffon, elle est très connue des Mendois et c'est probablement l'une des plus anciennes fontaines de Mende. Elle est déjà mentionnée en 1341. Alors, j'anticipe, hein, je sais que tu vas me demander pourquoi elle s'appelle comme ça. Alors, il y a plusieurs explications. D'ailleurs, les Mendois la connaissent aussi sous le nom de la fontaine de Laumenette. À l'origine, Laumenette, c'est un petit homme, un petit garçon, qui tenait dans sa main droite un faucon. Alors, aujourd'hui, il a disparu, mais on sait que dans son bec, un filet d'eau coulait. Alors, ce faucon peut être confondu avec le griffon, le fameux animal légendaire. Mais on a aussi une autre explication. Griffon viendrait aussi peut-être de griffoul, ce qui signifiait en occitan que l'eau jaillit. Et on a choisi de s'arrêter ici parce que la fontaine du Griffon est l'une des plus importantes et les plus utiles de la ville de Mende. Elle a joué un rôle sanitaire important pendant des siècles. Alors, la fontaine servait à nettoyer la ville. On la faisait déborder et la déclivité du terrain permettait à l'eau de s'écouler dans presque toutes les rues et d'évacuer les déchets. Alors, certains noms de rues de Mende témoignent encore de cette pratique. À côté de la fontaine, il y a la rue de l'Arjal. Ce terme en occitan signifiait l'égout. Il y a aussi la rue d'Aigues-Passes un petit peu plus loin. Et Aigues-Passes signifie la rue de l'eau qui passe.
Et donc, il y a beaucoup de fontaines sur Mende ?
Et oui, presque toutes les places de Mende sont pourvues de fontaines. Avant, elles étaient très utiles et aujourd'hui, la tradition se perpétue avec des fontaines d'ornement. On peut citer notamment la fontaine boule de la place Aubert qui a été réalisée en 2008. C'est une fontaine de type Kugel. Elle est composée d'une sphère en granit poli qui tourne grâce à la force de l'eau. Alors un petit quiz, Ludo, peux-tu me donner le poids de cette sphère ?
Oh, je n'en ai aucune idée, mais je ne sais pas. Je dirais 500 kilos.
C'est plutôt 900 kilos. Allez, une autre question. Et le Mendozer, tu sais ce que c'est ?
Alors, ça me dit quelque chose, mais je ne le remets pas.
Alors, le Mendozer, c'est la fontaine monumentale qui est construite sur le rond-point des casernes à l'entrée ouest de Mende. Son créateur, Robert Proin, l'a imaginé en 1992. Alors, dans la ville, on a également aménagé plusieurs lavoirs.
Voilà, et le plus célèbre, c'est le lavoir de la Calquière, c'est ça ?
Exactement. Mais il n'a pas toujours servi à nettoyer le linge. L'appellation calquière vient du mot chaud. Et les tanneurs et les tisserands l'utilisaient pour dégraisser les peaux et la laine. Alors tu le sais peut-être, hein, mais Mende était très réputée pour son activité lainière et ses tanneries. Et le lavoir de la Calquière, avant, était une tannerie intramuros dans la ville. Mais c'est aussi une source de nuisances, les tanneries. Donc on va, avec l'expansion de l'activité, on va choisir de déplacer les tanneries et les filatures hors du centre, près du Lot, dans le quartier du Bressal notamment. Alors il va y avoir d'autres activités qui se développent à Mende et qui vont utiliser la ressource en eau qu'offre la ville.
Alors juste pour situer, la fontaine du Griffon, c'est l'entrée sud du centre-ville, à côté l'artisan boulanger du fournil lausérien et à côté du bureau de tabac. Et le lavoir, c'est place au blé, c'est ça ?
Alors le lavoir de la Calquière, c'est rue d'Angiran, à côté du petit casino.
Et tu parlais d'autres activités qui se développent à Mende, qui vont utiliser la ressource en eau. Tu penses à quoi ? Au moulin ?
Oui, alors le moulin, hein, on pense évidemment au moulin de la Vernelle, hein, qui est toujours en activité aujourd'hui. Et cette minoterie fournit en farine la plupart des boulangeries de la ville. Mais je voulais surtout te parler des brasseries. Puisqu'à partir de 1828 et jusqu'en 1960, de la bière et de la limonade seront produites à Mende. Alors les brasseries s'étaient implantées sur 4 sites. Il y en avait une Faubourg Saint-Gervais. Le bâtiment est toujours visible aujourd'hui puisqu'il s'agit du dernier bâtiment en montant sur le Causse de Mende sur la route de l'aérodrome. Il y avait une autre brasserie Faubourg Lavabre au-dessus du Foirail. Une autre Faubourg d'Angiran, après les archives départementales, et enfin Faubourg d'Aiguepas, non loin de l'avenue Foch. Alors on le sait, l'eau de source est une des matières premières nécessaires à la fabrication de la bière. Et pour produire de la bonne bière, il faut une eau pure. 3 des 4 brasseries vont donc s'installer sur des sources directement. Et le 4e brasseur, Martin Muller, va signer une concession temporaire avec la ville de Mende. Et la canalisation pour cette prise d'eau partait du réservoir de la place Chaptal et allait jusqu'à l'avenue Foch.
Donc jusqu'en 1961, ces brasseries, et après ça s'est arrêté. C'est quoi, c'était une cause économique ?
Oui, à partir des années 60, plusieurs de ces anciennes brasseries vont fusionner pour créer une entreprise bien connue en Lozère, de la Lozérienne des boissons, pour faire de la distribution de boissons alcoolisées et non plus de la production.
Voilà, mais depuis quelques années, on assiste à un renouveau des micro-brasseries locales.
Voilà, à Mende et même plus généralement sur la Lozère. Il y en a pas mal sur la Lozère.
Exactement.
La vie étale ses boulevards devant mes yeux qui broient toujours la même histoire de attendre qu'il se mette à pleuvoir pour lever la tête et pour ses tours de Babel en carton et ses milliers de solitudes classées Paris. Je te regarde, Paris, je t'aime, mais souvent je te hais, Paris. Nous vivons dans ton squelette,
Tu meurs chaque jour un peu plus dans nos têtes. Paris, mon père, Paris, ma mère, Paris, mon frère, Paris, tous mes enfants. Je suis le fils de notre tristesse, de cette grande famille en famine assoiffée de tendresse, enivrée dans sa migraine, au point d'en oublier son cœur et ses deux mains. Paris, je te fuis, Paris, je reviens, mais des fois je me dis que c'est toi qui es vraiment loin. Loin de toi, même comme on l'est tous, a pu vouloir savoir le goût que t'as dans la bouche. Paris, tu marches avec moi. T'appartiens, pourtant tu tiens au creux de ma main, Paris.
Allez, on a poursuivi un peu dans la ville, on est rue des Bains, encore une histoire d'eau.
Et oui, exactement, et encore un nom de rue qui témoigne d'une activité liée à l'eau dans la ville. Alors tu sais ce que c'est cette activité ?
Non.
Bah, les bains publics. C'est dans cette rue qu'en 1822, un propriétaire privé va demander l'ouverture d'un établissement de bains. Alors certains habitants fréquentaient cet endroit avant le raccordement en eau de toutes les maisons du centre qui se fera jusqu'au milieu du XXe siècle. Et il sera remplacé plus tard par un autre établissement de bain-douche qui sera bâti en 1929 sur le Foirail. Alors Ludo, peut-être que tu t'en rappelles, hein, mais les Mandois se souviennent certainement du foyer Saint-Ilpide, qui était ce bâtiment art déco qui a été remplacé aujourd'hui par l'espace événement Georges Frêche. Et c'est là que se situaient les bains douches de Mende.
Et avant, par rapport à cette rue des Bains, ils étaient situés où ici ?
Dans la rue des Bains, les bains étaient situés dans une maison particulière. Il ne faut pas s'attendre à un grand établissement. C'était une maison dans laquelle le propriétaire avait aménagé quelques petites baignoires, mais de petite taille.
Et juste à côté, une fontaine qu'on ne voit pas forcément et pourtant qui est assez atypique, assez impressionnante, avec Neptune qui tient une carpe et qui donnerait de l'eau potable.
Oui, c'est ça. Cette fontaine n'a rien à voir avec l'établissement de bains. C'est une fontaine qui a été installée au 19e siècle et d'ailleurs aujourd'hui, elle n'est plus en eau. Mais c'est un vestige de la distribution en eau dans la ville de l'époque.
Allez, qui dit eau, dit bien sûr Lot pour Mende. Donc on va aller vers un élément architectural important de la ville de Mende, le pont Notre-Dame. Allez, nous voilà au-dessus du Lot, on est sur le pont Notre-Dame, l'un des plus célèbres monuments de la ville.
Oui, hein, le pont Notre-Dame, c'est l'un des plus célèbres. Mais c'est aussi l'un des plus anciens. Il est mentionné pour la première fois en 1229. Les Mandois le connaissent aussi sous le nom de pont Peyrinck, le pont en pierre. Et il a longtemps été le seul pont maçonné de Mende. Et la petite anecdote, hein, lors de la Révolution, il sera débaptisé un temps pour être nommé le pont de la raison.
Et malgré les crues du Lot, il est toujours debout.
Oui, tout à fait. Il a de nombreuses fois été endommagé lors des inondations, mais il a toujours résisté. Donc la ville de Mende, elle a longtemps tourné le dos au Lot, comme on l'a dit au début de la visite. Mais le développement urbain du XXe siècle, des dernières décennies, notamment sur le versant nord du Lot, quartier de Chaldecoste, la Vignette, la montée de Chabris, fait que la rivière aujourd'hui se retrouve vraiment au cœur de Mende. ce qui représente des avantages, notamment les promenades agréables qu'on peut faire le long du Lot, mais qui entraînent aussi des risques liés aux inondations. En effet, ouais, le Lot, s'il est moins impétueux que le Tarn, il est toutefois sujet à des crues parfois dévastatrices liées aux épisodes cévenols qui touchent le mont Lozère et le Goulet, là où le Lot prend sa source. Donc la plus ancienne crue recensée dans les textes remonte à 1408, tandis que la plus grosse crue connue s'est produite en septembre 1866. Elle a atteint une hauteur de 5,33 m. Et elle a causé de nombreux ravages sur toute la vallée, et à Mende, elle a notamment emporté le pont Roux et le pont de Berlière. Dans les siècles, enfin les décennies précédentes, de nombreuses crues importantes ont eu lieu. Bon, je ne vais pas tout énumérer, mais on peut citer septembre 1875, octobre 1933, et plus près de nous, l'automne 1994 et 2003, où le Lot a débordé et inondé pas mal de quartiers. Parce qu'en effet, la ville compte aujourd'hui plusieurs quartiers qui se sont développés dans le lit majeur du Lot. C'est des quartiers qui étaient auparavant occupés par des jardins ou des prairies, qui étaient en dehors de la ville ancienne, et qui se sont urbanisés au cours du XXe siècle. Et donc, ils peuvent être inondés lors des crues du Lot, notamment tous les quartiers qui se situent le long de l'avenue Paulin-Daudet, le Prévival, pas loin d'ici, ou encore le quai de la Roubaix-Rolle.
Voilà, il y a de nombreux travaux qui sont faits en amont du lit de la rivière pour éviter justement ces crues qui sont faites chaque année. Le Prévival, ouais, il y a une nappe phréatique aussi dessous, il me semble, on l'avait vu dans une visite radiophonique.
Oui, ce qu'on peut compléter aussi, c'est que les fameuses sources de la Vabre dont on a parlé depuis le début de la visite, elles se jettent dans le Lot juste en amont du pont Notre-Dame en passant sous le Prévival. Donc on a à la fois un peu cette nappe phréatique et aussi les sources de la Vabre qui, lorsqu'il pleut beaucoup, grossissent et remontent vers la surface. Donc effectivement, c'est le quartier le plus exposé de Mende en ce qui concerne les inondations.
Tu peux nous dire un mot sur les autres ponts de Mende? Là, tu as évoqué des ponts qui, lors de crues, sont faits submerger, notamment le pont de Berlière. Est-ce que tu peux nous parler du pont de Berlière et d'autres ponts?
Oui, tout à fait. Donc à Mende, si on part de l'amont vers l'aval, on retrouve le pont de Berlière qui est en bas de l'allée Piancourt, près de la gare. Donc un premier pont existait au XVIIe siècle, voulu par l'évêque de Piancourt, mais justement il a été détruit par cette fameuse crue de 1866. Donc il a été reconstruit en pierre maçonnée et achevé en 1870. Il était alors doté de garde-corps métalliques qui étaient amovibles, et on les enlevait lorsqu'il y avait les crues pour pas que les branchages et les embâcles se forment sur ce pont. Donc il a été reconstruit en 1874 et remplacé par le pont en béton que l'on connaît aujourd'hui, parce que la pile centrale de l'ancien pont faisait trop obstacle aux crues, notamment aux troncs d'arbres charriés par la rivière lors des inondations. Et par ailleurs, le pont était trop étroit pour le croisement des véhicules, et vu que la ville s'est développée dans les années 60-70 sur le versant nord côté Châle de Coste, la Vignette, il a fallu élargir ce pont. C'est pour ça que l'on a construit ce pont moderne. Ensuite, juste en aval du pont Notre-Dame, il y a le pont de la Planche, aussi appelé le pont du faubourg Montbel, qui est situé donc sous le grand séminaire. Alors initialement, il était en bois. Lui aussi a été détruit par la crue de 1866. Il a été réédifié en 1892 sous forme de passerelle métallique avec un pilier maçonné au milieu. Mais lui aussi a été démoli en 1981 et remplacé par le pont actuel, là aussi pour fluidifier la circulation et les échanges entre les rives nord et sud du Lot. Et enfin, un peu plus bas, on a le fameux pont Roux, qui était anciennement appelé pont Saint-Jean, comme la chapelle proche, et c'est le nom du quartier. Donc il se situe en bas de l'avenue du 11 novembre. Et d'ailleurs, il est mentionné un premier pont ici dès le XIIe ou XIIIe siècle, c'est-à-dire quasiment en même temps que le pont Notre-Dame, sauf que c'était un pont en bois, c'était pas un pont maçonné en pierre comme le pont Notre-Dame. Donc il a été reconstruit au XVIIe siècle et emporté, encore une fois, par cette crue de 1866, d'où il tire son nom. D'ailleurs, le pont Roux, c'est le pont rompu, le pont qui a cédé lors de cette inondation. Il a été reconstruit en 1893, le pont actuel que l'on connaît, puis il a été doublé par un pont moderne, le pont qui est juste à côté, là aussi en béton, toujours dans les années 70, pour faire face aux, au trafic engendré par le développement des quartiers de Chabris, Chabanes et l'avenue du 11 novembre.
Du coup, par rapport à cette visite, il y a une actualité, Vincent ?
Oui, alors il y a deux petites actualités. On vous a parlé des sécheresses tout à l'heure qui asséchaient les sources de Lavabre dans l'histoire. Et bien là, cette année, on sort d'une sécheresse intense sur cet été 2022 qui a entraîné l'arrêt des fontaines de Mende et qui a conduit également à une baisse importante du niveau du lac de Charpal puisque l'eau potable est épuisée dans ce lac.
Une autre actualité très importante, puisque le 18 octobre dernier, le musée du Gévaudan a ouvert ses portes à Mende après des années de fermeture. Alors, il est vraiment conçu comme une porte ouverte sur le territoire, donc je vous invite vivement à venir le découvrir. Et vous pourrez aussi y retrouver au rez-de-chaussée le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine du Pays d'Arrêt d'Histoire. Et également, au premier étage, on peut retrouver les collections permanentes du musée, avec notamment une pièce dédiée à l'eau et la boucle. Et bouclé.
Ah ben la boucle est bouclée, merci Béné. On a une petite anecdote pour briller en société ?
On en a même deux. Alors, il faut signaler l'existence d'une rivière souterraine à Mende que très peu de gens connaissent, parce que c'est tout nouveau, c'est une découverte récente qui a été faite par des spéléologues en 2017. Et d'ailleurs, elle est toujours en cours d'exploration et de cartographie. Apparemment, il y aurait plusieurs kilomètres de réseau souterrain entre Chanterue-et-Jolles et le Chapitre, jusqu'au Lot, en passant en dessous de Chabris, ce qui en ferait un des réseaux les plus importants du département. Donc c'est quand même assez notable. Et la seconde anecdote, puisqu'on est au bord du Lot, un petit record, même si l'on est second, mais il faut dire que le Lot est la seconde plus longue rivière dont le cours est entièrement en France, après la Marne. Le Lot fait 485 km de long, ce qui est très notable pour une rivière. Et d'ailleurs, à ce propos, une petite anecdote également, c'est qu'au début du 19e siècle, l'État s'alarme de l'ensablement de l'estuaire de la Gironde à Bordeaux à cause des crues du Lot et du Tarn, et des autres affluents aussi de la Garonne. Tout ça a été dû à une érosion intense et au déboisement qui avait eu lieu pendant tous ces siècles. Et cette érosion et cette problématique a conduit aux politiques de restauration des terrains de montagne qui ont créé les vastes forêts que l'on retrouve aujourd'hui, notamment sur le Causse de Mende, la grande forêt de pins noirs d'Autriche.
Pas mal pour briller en société.
Voilà, et on va espérer qu'il reste de l'eau dans les prochaines années sur Mende et ailleurs. Merci Béné, merci Vincent, à bientôt.
À bientôt.
À bientôt.